après-midi, de regarder, sans parler de cela avec certains d'entre vous, de parler des sept sacrements. C'est bien de parler des sept sacrements, parce que on n'arrête pas de parler des sacrements, mais de parler des sept sacrements, c'est tellement important. Habituellement, on fait la théologie mystique de la Bible. On prend le texte de l'Écriture le dimanche après-midi, n'est-ce pas? On dit, mais où se trouvent les sacrements dans l'Écriture? Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire de sacrement. D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que cette invention inventée par... C'est vraiment inventé par les hommes, tout le monde. Ou bien c'est inventé par Dieu, ou c'est institué par le Christ, enfin quoi. C'est pas commode cette histoire de sacrement. Un baptême. Le baptême, c'est un sacrement. Donc il y a sept sacrements. Et puis on vit des sept sacrements. Et pourquoi est-ce qu'il faut vivre non pas d'un seul sacrement, mais de sept sacrements? Et comment on vit des sacrements? C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que qu'il y ait des sacrements, je m'en fiche. Ouais. Mais comment on en vit? C'est ce qu'on faisait d'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire à chaque fois qu'on fait une petite retraite. Donc si vous voulez approfondir un des sacrements, vous prenez la série de la retraite correspondante. Je trouve que ce qui serait très intéressant cette année, c'est de regarder, si le Seigneur nous aide à le faire, c'est de regarder le fruit de chacun des sacrements et de comparer comme cette espèce de faisceau glorieux, extraordinaire, des fruits de chacun des sacrements. Parce qu'un sacrement, c'est un moyen, voyez bien, vous savez bien, on les utilise, c'est comme une... L'Eucharistie, c'est une nourriture, la confession, c'est une lessive, ce sont des moyens, ce sont des moyens. Et ce ne sont pas des buts en soi, mais une fois qu'on est passé par les sacrements, il y a quelque chose qui demeure ou qui reste, une fois que le sacrement disparaît, il y a quelque chose qui sort des sacrements. Et qu'est-ce qui sort exactement des sacrements? Une fois que le sacrement disparaît, qu'est-ce qui reste dans mes bras? Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Avec ce bébé, je dois m'emmerder. Et donc il faut savoir utiliser, user et jouir des sacrements. Uti et fruit. Hein, en latin, beaucoup mieux. Outils et fruits. Les sacrements, il faut en user, et puis il faut en jouir. Fruits. Alors, l'utilisation, il faut savoir comment on use d'un sacrement, outil, et puis comment, qu'est-ce qui se passe, une fois que le sacrement est parti, comment est-ce qu'on va lui donner son fruit catholique, universel, éternel? Alors, je trouve que ce serait vraiment, tellement bien. Quand je dis, on va... Quand je dis, on va baisser un peu, on va monter un peu, on va monter la crème un peu. C'est très, très bien, voilà. Bon, mais en même temps, ce sera bien, on va reprendre du coup des choses déjà vues. Je crois que c'est bien, dans ce sens qu'on les a déjà vues, mais ça, sur le reste, les sacrements, c'est tellement extraordinaire, tellement étonnant. Tellement étonnant qu'il faut le faire. Alors... Ceci étant, moi, je m'excuse, je ne veux pas parler toujours tout seul. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Bon, c'est vrai que s'il y a une chose qui me désole un peu, là, je vous vois tous fatigués, beaucoup plus fatigués que moi. Donc, simplement, ce que je voudrais, c'est que... Il y a quelques années, je ne sais pas si vous savez ceux qui étaient là il y a 5 ans, il y a 4 ans, je démarrais toujours ici avec un plein de papiers, avec plein de questions. Et je ne sais pas pourquoi, depuis un ou deux ans, plus personne n'a aucune interrogation, rien. Je trouve que c'est dommage parce que. Parce que bon, ce que j'aimerais beaucoup, moi personnellement, bon, parce que c'est un petit peu, c'est qu'on fasse le travail ensemble, vous comprenez? Maintenant, sur les sacrements, il me semble que vous comme moi, nous en savons à peu près autant. Nous en savons à peu près autant, puisque, vous voyez, par exemple, sur le sacerdoce, vous voyez, on a fait une retraite, un tableau merveilleux avec cinq colonnes. On a sur l'Eucharistie, sur la confession, le mystère de la confession, nous avons décortiqué ça déjà ensemble. C'est extraordinaire, ces choses qu'on a vues. Pratiquement, c'est déjà vu. Mais ce que je voudrais qu'on voit, c'est qu'on le reprenne ensemble, puis qu'on voit cette espèce de corpus organicus sacramentorum. Voilà. Alors, donc dès qu'il y a quelque chose, parce que c'est comme c'est du déjà vu, je crois que plus que jamais, c'est possible pour nous de prendre, de dire voilà, j'aimerais préciser tel point. Ça, j'aimerais préciser tel point. Parce que tout de même, le sacrement, on a vu. Hein. Maintenant, on a vu ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu en détail. On a passé un an à faire ça. Le sacrement du mariage, la sponsalité. Alors là, on l'a regardé dans tous les sens. On a regardé le sacrement, donc, le mystère du sacerdoce. Alors là, on ne peut pas dire, mais enfin, je crois qu'on n'a pas fini, il faudra le reprendre. On a regardé le sacrement de confession, le mystère de la confession, c'est génial. On a essayé de rentrer un tout petit peu dans le mystère de l'Eucharistie. Bon, et puis il y a un certain nombre d'autres sacrements qu'on n'a pas tellement regardé à fond, hein, donc, comme le mystère du sacrement des malades, le mystère de la confirmation. Le mystère du baptême. Donc on a des gens sur la planche. Voilà. Bon, comme un petit peu notre préoccupation, c'est d'être resté toujours enraciné sur la révélation. Je voudrais reprendre un petit quelque chose avec vous. Pour voir le pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sacrement. Il faut arriver à les situer, les sacrements. Je vous rappelle une petite chose, un petit quelque chose qui nous vient de... Qu'est-ce qui explicite les sacrements? Vous ne verrez jamais, il y a sept sacrements dans la Bible. Vous ne verrez jamais ça. Jamais. Vous ne verrez pas... Vous ne verrez pas explicitement l'institution des sacrements par le Christ. C'est Jésus qui a institué les sacrements. Mais vous ne verrez jamais ça explicitement dans l'Écriture. Il y a des prophéties des sacrements dans l'Ancien Testament, ça nous l'avons déjà vu. Mais c'est l'Église à chaque fois qui a précisé, il en faut sept. C'est l'Église qui précise qu'est-ce que c'est qu'un sacrement, et qu'il faut ce sacrement, et que c'est de cette manière-là que le sacrement doit se faire. C'est le sacrement. Un sacrement n'a jamais existé si ce n'est le sacrement du Christ et de l'Église. Sans l'Église, pas ce sacrement. C'est pour ça que dans l'Écriture, il n'y a rien sur le sacrement en tant que sacrement. Alors on va dire, c'est facultatif. Eh bien non, c'est pas facultatif, c'est nécessaire. Et pourquoi c'est nécessaire un sacrement? Pourquoi c'est si nécessaire que ça? Que je voudrais regarder au moins avec vous aujourd'hui, au moins ne serait-ce qu'à titre d'introduction. Il faut réfléchir à ça. Je cherche avec vous, je ne dis pas que je trouve la solution, je dis qu'il faut creuser un petit peu. Il faut prendre un instrument de travail. Alors, l'instrument de travail, il me semble que nous l'avions déjà regardé. Pourquoi y a-t-il sept sacrements? Pourquoi ces sept sacrements sont-ils nécessaires? Alors, je propose de reprendre cela. Dans l'Ancien Testament, il y a la Torah, l'Écriture. Et elle donne la révélation de Dieu. Dieu dit qui il est. C'est sympa de sa part, parce que on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, mais on ne sait pas qui il est, comment il est, et comment on s'enracine en lui, comment il vient vers nous. On ne sait pas. Et donc, il y a toute l'Écriture qui nous enseigne cela. Mais, pour arriver à comprendre la Bible dans l'Ancien Testament, Tu peux interpréter à droite, à gauche, devant et derrière. Alors il y a des instruments de travail pour interpréter. C'est Moïse, hein, vous le savez bien. C'est Moïse qui est l'instrument de travail à travers lequel la révélation va être donnée au monde. C'est Moïse qui, par la main de Moïse, que la Genèse a été écrite. Ça, il faut le savoir. Ça vient pas d'Abraham. Ça vient pas d'Élie ou je sais pas quoi. Non, ça vient de Moïse, de la Torah. Donc la Genèse, l'Exode, Lévitique, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'interpréter? Ça, c'est le génie de la langue hébreu, c'est qu'on ne peut pas interpréter la Bible si on n'en connaît pas l'interprétation. Alors, il y a comme une espèce de tradition explicative de chaque mot, de chaque lettre, de chaque phrase, de tout le cursus. Vous comprenez? Ça, on sait bien. Et c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Nous appelons ça la Kabbale. Vous avez tous entendu parler de la Kabbale. Qu'est-ce que c'est que ça? La Kabbale, la Kabbalah. La Kabbale, c'est... Il faut que vous vous rappeliez toujours qu'il y en a trois. Hein. Il y en a trois. La Kabbale, ça veut dire la tradition orale. Donc vous avez la Bible écrite et vous avez une tradition orale qui vous donne des clés de lecture par les grâces à laquelle vous pouvez comprendre le texte écrit. Il y a trois kabbales. Il y a une kabbale, donc Moïse donne le texte écrit, et il donne une tradition d'interprétation infaillible. C'est la première kabbale. Et il le dit, attention, Moïse donne la révélation de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Livre des Nombres. Et pour la Kabbale, c'est Moïse et Aaron. Ils sont deux pour donner la Kabbale. Moïse et Aaron. Et puis, Moïse et Aaron, lorsqu'ils vont mourir, n'est-ce pas, vous le connaissez très bien, vous avez lu, que l'esprit de prophétie s'empare de 70 prophètes en Israël, le Sanhédrin est constitué, et sur ces 70 membres du Sanhédrin, deux sont choisis pour leur sainteté, leur inspiration et aussi leur érudition. Ils sont capables de retransmettre intégralement toute l'interprétation orale sous l'inspiration de Dieu et en même temps dans la fidélité absolue au magistère antérieur. Et on appelle ça la succession, non pas apostolique, mais la succession des nacis d'Israël. N-A-C-I. Vous voyez, tout ça, c'est des petits trucs qu'il faut savoir. Culture religieuse élémentaire. Un petit garçon, n'est-ce pas, qui fait le catéchisme, qui va au catèche, juif, bon, eh bien, il doit savoir quelle est la succession des nacis d'Israël par laquelle, c'est chaque fois deux par deux. Par exemple, dans la succession, il y a, par exemple, à un moment, il y a Élie et Élisée. Élie et Élisée sont deux nacis d'Israël, à un moment donné, n'est-ce pas? Par exemple, vous avez entendu parler du prophète Élie. Bon, à un autre moment, il y a Isaïe et puis je ne sais plus qui. Vous avez Daniel, Ézéchiel, etc. Bon, alors, les petits juifs connaissent, un petit peu comme si nous au catéchisme, vers l'âge de 12 ans, avant de faire la profession de foi, donc vers l'âge de 12 ans, avant qu'ils ne fassent justement la grande fête des juifs par laquelle ils rentrent dans la communauté, eh bien ils doivent connaître par cœur toute la succession des nations d'Israël jusqu'à eux. C'est extraordinaire. Un petit peu comme si nous, on devait connaître par cœur toute la succession des papes, depuis Pierre jusqu'à Jean-Paul II. Parce que nous, c'est pas deux par deux, c'est un qui est porteur de l'infaillibilité, de la Kabbalah, la Kabbale, la Kabbale catholique, n'est-ce pas? C'est quatre. Quatrième Kabbale, c'est le magistère infaillible de l'Église. Il s'enracine dans la bouche de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul? Parce qu'ils sont toujours deux. C'est Jésus et Pierre. C'est Jésus et là. C'est Jésus et Clé, etc. C'est Jésus et Clément. Et puis c'est Jésus et Jean-Paul II, à la fin. Et puis après, c'est Jésus et le pape qui vient après. Ils sont toujours deux par deux. Kabbalah, toujours deux par deux. C'est pour ça que Jésus envoie ses apôtres deux par deux. Toujours. Il les envoie pour annoncer la bonne nouvelle et l'interprétation. Comment on doit lire l'Écriture, interpréter les textes et interpréter les événements deux par deux. Toujours deux par deux. C'est à ce moment-là qu'il y a un, voyez, on retransmet quelque chose. Comme ça, on est sûr que chacun ne donne pas une opinion personnelle. Non, on retransmet une tradition antérieure qui, elle, est enracinée dans l'éternité. C'est un espèce de téléphone extraordinaire. Hein, c'est vrai ça. Allô ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, tu prends la Kabbalah. Ça, c'est extraordinaire, c'est génial. À un moment donné, le petit enfant, par exemple Jean-Baptiste, je ne sais pas où, par qui il a été éduqué, s'il a fait sa fête, comment est-ce qu'on appelait à 12 ans, la fête de la bar mitzvah. Hein? Alors, je ne sais pas s'il y a une cérémonie spéciale pour lui, parce que c'est passé dans le désert, mais enfin, à cette époque-là, si vous voulez. Bon, est-ce que vous savez quels sont les nachis de la faim? Ils sont connus, puisqu'on en parle dans le Nouveau Testament. Les nachis de la faim sont connus comme le loup blanc. Il faut connaître la série. Ça commence par Moïse et Aaron, et puis à la fin, vous avez le fameux Siméon. Siméon, qui fait partie du Sanhédrin, qui est pris par l'Esprit Saint, qui est inspiré par l'Esprit Saint, qui est un saint. Vous voyez, on ne choisit pas le grand prêtre et puis le... Non. Dans les 70, on prend ceux qui sont prophètes et sous le souffle de l'Esprit Saint. Et ils ont autorité. Mais ils parlent avec autorité. Mais s'ils parlent avec, une autorité prophétique. Hein. Et c'est clair, vous voyez, à un moment, Isaïe, par exemple. Siméon. Et Siméon, c'était... À un moment, il a partagé le nazisme avec Hillel. Mais Hillel est surtout connu dans ce fait qu'il a partagé le nazisme avec Gamaliel. Gamaliel et Hillel. Et Gamaliel et Hillel, c'est vraiment les deux derniers nazis d'Israël. Il faut le savoir. Hein. Gamaliel, lui, il va être, après la Pentecôte, il va être converti au christianisme. Hillel sera mort, il va mourir. Et Gamaliel, lui, il va être converti au christianisme et il sera baptisé. Saint Gamaliel. Et c'est lui qui a formé un petit jeune super intelligent qui s'appelait Saul. Saul de Tarse. Saul de Tarse, ça ? Très très futé. Très futé. Et puis, c'est Saul de Tarse. Mais vous voyez bien que Saul de Tarse, à un moment donné, c'est la débandade, hein, à la mort et la résurrection du Christ. C'est la débandade. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On demande à Gamaliel, et Gamaliel, il dit, je suis désolé, c'est toutes les prophéties qu'il indique, et c'est toute la cabale qu'il indique. À partir du moment où le Saint des Saints s'est déchiré en deux, c'est fini, il ne peut plus y avoir sacrifice dans le temple. Du moment où Jésus ressuscite d'entre les morts, il n'y a plus une seule fois le sacrifice de la Pâque dans le temple de Jérusalem. Il n'a pas fallu attendre l'an 70 pour la suppression du sacrifice dans le temple de Jérusalem. C'est historique, ça. Alors, c'est la débandade, on ne sait plus quoi faire, il y a Saul qui est là, et à un moment, bon, ben, il faut lapider Étienne, vous le savez, vous connaissez vos actes des apôtres. Et Saul, j'allais dire, c'est celui, j'allais dire, de tous les Juifs de Jérusalem, il vient de Tarse, qui est le plus futé de tout et qui a récupéré, si je puis dire, qui est comme l'héritier de toute la tradition orale de la Kabbale, c'est-à-dire d'interprétation infaillible d'Israël, sortie de la bouche de Moïse, approfondie tout le long de l'esprit prophétique. C'est extraordinaire de comprendre ça. Et c'est ce mec-là qui est sur son cheval et qui tombe de son cheval. Et c'est Jésus ressuscité d'entre les morts qu'il choisit comme son apôtre. Les autres ont été choisis par Jésus, né de la Vierge Marie. Et lui, c'est l'apôtre choisi par Jésus ressuscité d'entre les morts. pour montrer que la Kabbale, la tradition interprétative de la Bible, de l'Écriture, si vous voulez, elle a quelque chose d'infaillible surnaturellement dans le temps, et il faut qu'elle soit baptisée par la gloire éternelle, au-delà de ce système, de ce temps, et de ce lieu et de l'histoire, et c'est Saul qui est là. C'est quand même très beau, je trouve ça, hein, c'est extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de choses dans les épîtres de Saint-Paul, dans les épîtres aux Hébreux, c'est inouï, qui sont incompréhensibles si on ne connaît pas les mystères d'Israël dans leur secret d'interprétation, vous comprenez ? Que vous ne pouvez pas lire en lisant la Bible. Donc quelqu'un qui lit la Bible tout seul, il ne comprend rien s'il ne connaît pas les secrets, la manière dont on doit les interpréter. Et si on les interprète autrement, on est en dehors de la signification de l'Écriture. De sorte que notre foi est enracinée non seulement dans l'Écriture, mais aussi dans la manière infaillible de l'interpréter, et toutes les autres manières de les interpréter sont fausses. Les deux nourritures de la foi, c'est l'Écriture et la tradition. C'est pour ça qu'on fait un catéchuménat, c'est pour ça qu'on fait de la théologie, c'est pour ça qu'on rentre dans la doctrine mystique et infaillible qui vient de Dieu et qui irrigue tout le cœur aimant du peuple qui comprend, qui cherche, qui pénètre en Dieu. C'est toujours deux par deux la foi. Il y a deux, l'Écriture et la tradition. Le Concile Vatican II rappelle ça avec une puissance. Ouais. Alors, ça, c'est pour aller un petit peu rapidement. C'est un petit rappel très... que vous saviez tout ça, je pense. Bon, ne me dites pas que vous ne saviez pas. Alors, si vous voulez approfondir, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont du temps, n'est-ce pas ? Alors, ici, par rapport à cette histoire, parce que vous savez que dans la tradition interprétative d'Israël, il y a tout, hein, le mystère de la virginité de Marie, que c'est par sa contemplation virginale, ce n'est pas par une opération physique que le Messie va trouver une chair humaine, mais c'est par une contemplation spirituelle. C'est la contemplation spirituelle et virginale de la femme qui sera source d'un corps. Du corps de Dieu, du corps du Fils de Dieu, du corps du Messie. L'engendrement de ton corps, l'engendrement du mien, il vient d'une opération qui vient des parents et qui n'est pas virginale, qui est paternelle et maternelle. Tandis que l'opération qui engendre en Marie un corps pour Dieu, c'est une opération qui s'origine dans une activité contemplative de Marie. Extraordinaire. Elle a contemplé. Et c'est sa contemplation qui a fait naître. Ce n'est pas du tout des opérations de gamètes. Si bien que Jésus n'a jamais été un zygote. Jamais. Nous, oui. Enfin, c'est pour nous tous des zygotos à côté de Jésus. Il n'y a pas eu, l'Esprit Saint n'a pas remplacé le principe mâle au niveau de la gamète, au niveau des gamètes. Non. Celui qui dit ça, c'est une définition dogmatique, a perdu totalement la foi catholique, la foi chrétienne. Non, Jésus engendrait, non pas créé, et engendrait à travers une activité contemplative, l'activité contemplative de l'Immaculé, qui contemple ce que Dieu contemple, et quand Dieu contemple, il contemple lui-même, et quand il contemple lui-même, il s'engendre lui-même. Et du coup, elle engendre Dieu dans sa contemplation. Et comme elle le contemple avec toute elle-même, et qu'elle a une chair humaine, alors du coup, il est engendré dans la chair. La virginité et la maternité de Marie, c'est la même chose. Ça, c'est génial, je trouve. Donc, vous voyez, eh bien, ça, c'est dans la première Kabbale, ça. Vous le trouvez dans la première Kabbale. Vous trouvez le mystère de la très sainte Trinité dans la première Kabbale. Vous prenez le mystère de l'incarnation du Messie, de la divinité du Messie, le mystère de la virginité immaculée de la Vierge, d'Isaïe. Vous trouvez tout ça dans la Kabbale. C'est pour ça que, comprenez, ceux qui n'acceptent pas, c'est pour ça que les Juifs sont étonnés quand ils voient des chrétiens qui disent il faut prendre l'écriture seulement. Ils sont scandalisés. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens? Quelle bande de gens stupides! Le nombre de chrétiens qui sont comme ça. Parce que tu es le pape. Il faut prendre uniquement la Bible. Imbécile. Il faut vraiment être d'une inculture, d'une bêtise pour dire ça. C'est aberrant. Il faut prendre la tradition infaillible, divine. Elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas de Moïse, elle est passée par lui, elle est demeurée, elle n'a cessé de s'approfondir. Elle continue de s'approfondir. La deuxième cabale, donc il faut savoir que la première cabale, il n'y a pas de trace écrite. Jamais Jésus n'a lu, ou Marie, ou Jean-Baptiste, ou Simeon, ou Saul, n'ont lu des textes de la tradition orale. Ça se transmet par des saints. Ça se transmet. Et si un jour ça se perd dans... Il y a eu des moments dans la tradition, ça s'est perdu avant Daniel et Ézéchiel, vous rappelez, puisqu'il y a eu la déportation à Babylone. Alors à ce moment-là, il y a une grâce de Dieu qui fait que l'esprit prophétique s'empare de quelques nations d'Israël, n'est-ce pas? Et remplace et rappelle tout. Nous avons ça aussi chez nous à travers les docteurs de l'Église. Il y a des choses qui sont oubliées quelquefois. Et le Saint-Père le rappelle parce que des saints sont là, comme Saint Jean de la Croix, Saint Thomas, etc., Saint Augustin. Et hop, c'est repris dans les définitions dogmatiques grâce aux saints. On l'avait oublié. Il y a un secours divin continuellement pour que la tradition orale sortie de la bouche du Christ demeure et ne cesse de s'approfondir. Et si elle a été oubliée, eh bien, il y a un saint qui rapplique vite. Et qui irrigue à nouveau l'Église, et puis après sa mort, 2 siècles après sa mort, 1 siècle après sa mort, le pape reprend ça, redéfinit. C'est génial comment c'est fabriqué. Connaître l'histoire de la révélation, c'est génial. Celui qui a lu un tout petit peu l'histoire de la révélation, il n'y a plus aucun doute possible. Sur le fait que c'est Dieu qui est origine du magistère infaillible, de la doctrine divine. Ça, c'est important, hein, moi, je trouve, de bien visualiser ça.
Oui.
Alors, justement, pour l'instant, j'ai fait... Il y a le magistère, la cabale catholique s'appelle le magistère. OK, hein, le magistère. Bon, ne dites pas cabale catholique, hein, ça vous serait très mal vu. Même si vous me dites à moi, je dis, mais ça va pas. Dites pas, le père Patrick nous a dit, il faut rentrer dans la quatrième cabale. J'ai pas dit ça. Je vous en supplie, j'ai pas dit ça. Bon. Charlotte ne dit pas ça. Hein. Alors, il y a la première cabale. Je vous dis donc, c'est une tradition orale. Avec la destruction de Jérusalem, l'an 70, diaspora des Juifs, la succession des nations d'Israël se perd. Il n'y a plus de nation d'Israël. Terminé. Il n'y a plus de nation d'Israël, et pour cause, puisque Gamaliel s'est fait chrétien. À la suite de la prédication des apôtres, 5000 prêtres à Jérusalem sont baptisés par Pierre. 5000 prêtres. Vous savez combien il y a de prêtres à Paris? Vous avez une idée du nombre de prêtres qu'il y a à Paris? Ouais. Une idée, ça? 200. Un peu plus quand même. Hein. Oui, c'est de l'ordre de 700, 800. 5000 prêtres à Jérusalem, juifs, sont baptisés par Pierre. Extraordinaire. Alors, il y a des persécutions, ils sont obligés de partir à Antioche et ils constituent la première communauté qu'on appelle la communauté des chrétiens. C'est parce que ce sont des prêtres juifs baptisés. Et c'est à eux que Saint Paul adresse, ou Apollos, l'épître aux Hébreux. C'est ça,
des petites choses très amusantes.
Avec la diaspora, la destruction de Jérusalem, les Juifs sont embêtés, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ont refusé, ceux qui ont dit « Ouais, c'est idiot, il faut laisser ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est une espèce de pauvre idiot, là, c'est lamentable, ces gens un petit peu lamentables, et puis ils ont réussi à nous circonscrire. Gamaliel, même Saul, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et finalement, ils se défendent comme ils peuvent, ils se rendent compte que tout est foutu, et que tout va se perdre, et donc, la cabale, ils essaient de rassembler tous les éléments épars chez les uns et les autres, et ils vont le mettre par écrit pour essayer de le sauver. Et on appelle ça le Talmud. Le Talmud, c'est la première cabale, si vous voulez, c'est le reste, c'est pas la première cabale, mais c'est ce qu'on a par écrit, les éléments par écrit qu'on a de l'enseignement oral sorti de la bouche de Moïse. Vous voyez ? C'est ça le Talmud. Mais au bout, vers le 4e, 5e, pardon, vers le 6e à 8e siècle, il y a tout un remue-ménage, etc., qui se fait parce que les gens qui lisent le Talmud, dans la diaspora, en Grèce, à Rome, en Mésopotamie, etc., et tous ces juifs qui sont hyper intelligents, n'est-ce pas ? Beaucoup plus intelligents que cette espèce de veau et de gaulois. Bon. Ou ces brutes de vandales, hein. Alors, ils se disent, mais en lisant le Talmud, ils reconnaissent la prophétie les prophéties du Messie. C'est incontournable, hein. Incontournable, la virginité de la Vierge. La très sainte Trinité. Et donc, la moitié de ceux qui pénètrent, qui creusent le point de vue du Talmud et de l'écriture, passent au christianisme. Alors vite, vite, il faut faire une deuxième cabale. Hein? Alors c'est justement ça. Alors là, ça c'est très intéressant. Il y a une deuxième cabale qui s'est faite donc entre le 6e et le 8e siècle, où on a essayé de supprimer, vous savez, on a pris une paire de ciseaux, puis on a supprimé les passages qui sont trop explicites. N'est-ce pas ? On n'a pas rajouté grand-chose. On a rajouté ici quelques éléments sur des discussions rabbiniques. Les fameux midrash, par exemple, vont s'incorporer ici. Les fameuses discussions midrashiques vont s'incorporer dans la deuxième cabale. C'est encore intéressant. Je veux vous rappeler qu'on a lu, une fois ou l'autre, quelques midrash. Alors, c'est les rabbins qui discutent. On discute à droite, à gauche. Alors, on fait beaucoup de mousse, beaucoup de discussions, beaucoup de découpage, beaucoup. On tire, est-ce que ce serait pas plutôt ça? Est-ce que ce serait pas plutôt ça? Et on tire vers le symbole, mais on garde quand même l'essentiel. Et on termine toujours par le point de vue talmudique. Et quelquefois, donc, on met entre parenthèses les choses vraiment trop explicites. Hein? Bah, malgré tout, c'est pas pour ça que les Juifs sont devenus idiots, au contraire, ils sont toujours aussi intelligents. Et donc, jusqu'au environ 12e siècle, les doctes en Israël se convertissent, passent au christianisme, à chaque fois un tiers. Vous savez que et ça a toujours été comme ça d'ailleurs, hein, vous savez, je ne voudrais pas faire d'erreur, mais ne prenez ça pas pour argent comptant, mais il me semble que les grands fondateurs, tous les grands fondateurs du christianisme, du catholicisme dans le monde, ce sont des juifs d'origine. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Saint Vincent de Paul. Je n'ai pas été converti encore. Il n'est pas canonisé encore. Mais je ne sais pas, tous ces grands fondateurs. Ils sont d'origine juive, vous voyez. Ratisbonne, fondateur plus récemment fondateur des sages de Sion, il vient. Il y a le fondateur d'une communauté aussi nouvelle là, d'ermites extraordinaires, le père David de Floris, extraordinaire quand même. Ah mais oui, mais moi je suis juif moi.
Alors,
c'est marqué dans mon nom, il y a David. Dis-moi aussi, Père, je suis Azaïs. Mais non, de Berbère. C'est ça qu'il y a quand même. Les grands docs en Israël, malgré tout, s'ils vont très loin, s'ils vont... finalement, ils sont pas idiots, au milieu de cette masse, hein, ils retrouvent quand même l'évidence. Donc, ils se convertissent. Alors, cela, il y en a marre. Il y en a marre. Allez, et on va faire naître la fameuse troisième cabale, 12e siècle. Vous voyez que, alors là, le lien avec Moïse, hein, il est loin. Il y a une coupure extraordinaire de 12 siècles. Et c'est là que vous avez, par exemple, des tas de théories dans la dernière cabale. Là, je reprends les chiffres, je reprends les lettres. Je leur donne une nouvelle signification. Ce n'est pas la même valeur symbolique. Ce n'est pas la même valeur interprétative, même pour les chiffres. C'est extraordinaire. Et puis, finalement, je fais un système interprétatif global sur la divinité à partir des grands transcendentaux. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler, par exemple, des séphirotes, les 9 séphirotes. L'arbre séphirotique, qui représente, j'allais dire, le point de vue divin, Ein Sof et compagnie, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on apprend où? Chez les Rosicruciens, à la Grande Loge Nationale de France, dans tous les systèmes ésotériques, dans toutes les gnoses, dans tous les aspects médioniques. Et toute une mystique, etc. Le but de cela étant de faire une nouvelle interprétation qui n'est plus la tradition de Moïse, parce que cette tradition de Moïse me mène trop clairement au Christ. Et c'est une cabale anti-Christ. Il faut le savoir. Alors, grosso modo, les séphirotes, vous voyez, ah oui, alors, les 9 séphirotes, c'est vrai, tout le système de l'horoscope, etc. C'est inspiré de ça. Il va y avoir plein d'analogies qui vont se faire. Toutes les mancies vont être inspirées de ça. Etc. Tous les systèmes magiques de magie blanche, inspirés de ça. La synagogue. La synagogue qui trouve que, encore au deuxième siècle, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter ce passage de ce... Et donc, on fait, donc, les séphirotes, ça date du XIIe siècle. Vous avez tous entendu parler, par exemple, d'Annick de Souzenel, qui écrit beaucoup en ce moment. C'est pas des bouquins, Annick de Souzenel. Alors, tout est basé là-dessus. L'arbre séphirotique, les séphirotes. C'est extraordinaire. Alors, comment faire pour rentrer dans ce séphirote-là? Ce séphirote-là, et puis, n'est-ce pas, je sais pas, Léon, vous êtes d'accord qu'il y a... Vous avez entendu parler de ça? Bon, mais c'est pas... Vous avez entendu parler de ça? Non, jamais?
Non.
Vous avez entendu parler de la cabale? La numérologie, la numéromancie, etc. Donc vous voyez des gens qui disent, alors les chiffres, 1, 2, 3, formidable, extraordinaire, 7, 8 et tout. Alors voyez donc, ici, là, moins 2, plus 7... Attention, on retourne cacahuète, parce que c'est quel... oui. Méfiez-vous de lui, si c'est ça. Mais parce que, attention, il y a deux systèmes interprétatifs, ok? Il y a le système de la cabale qui est ici. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Elle est là-dedans, ça. Ça, c'est... Et puis, la deuxième, la de cabale, qui est une cabale magique, si vous voulez, une cabale dont Saint Jean parle, d'ailleurs, dans l'Apocalypse, de manière prophétique, en parlant des paroles de la synagogue de Satan. La gueule de Satan, c'est ça, c'est une espèce d'anti-messie, d'anti-advenu du messie. Alors, toute la mystique va consister à s'engloutir dans un des aspects des transcendentaux divins, des qualités divines, si vous voulez. Il y a 9 grandes qualités divines, 3 x 3, n'est-ce pas? Et Dieu, il est ces 9 séphirotes, quelque part, pour eux. Mais toi, ta mystique, au fond, la mystique kabbalistique va consister à s'engloutir, à se donner dans un séphirote, puis on va pouvoir accéder à un deuxième, un jour accéder à Ein Sof, etc.
Et les états de bodéité, etc., si on prend les systèmes orientaux, les états de bodéité correspondent exactement à l'arbre séphirotique. C'est extraordinaire. Mais les prémices de l'arbre séphirotique, c'est déjà à l'époque ici de Plotin qui commence à apparaître, vous savez, vous vous rappelez ? Mais l'état de système kabbalistique organisé, 12e siècle. Mais, alors, donc, quand tu es ici, tu es au sommet, ça y est, tu as atteint la divinité. Déjà là, tu es dans la divinité. Mais voyez bien que c'est l'état séparé à chaque fois. Tu passes de l'un à l'autre. Tandis que, finalement, Dieu n'y est pas. C'est Dieu. C'est les attributs divins de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est extraordinaire. Au fond, les séphirotes, ce sont des espèces de séraphins, si vous voulez, c'est des séphirs, c'est des anges. Et le but, c'est d'être englouti dans un transcendantal divin, dans un attribut divin, si vous voulez, enfin, je sais pas quoi, par exemple celui de l'unité de Dieu. Mais ça, c'est l'ange qui est porteur de l'unité de Dieu. Chaque ange, c'est une fonction angélique, ça. Mais si c'est en dehors de l'adoration, donc c'est anti-Dieu. Et donc c'est des anges déçus, évidemment. C'est une petite parenthèse qui vient de moi. C'est une opinion personnelle. C'est pas l'enseignement du pape ce que je vais vous faire. Si vous voulez approfondir cette question, très importante, puisque je vous propose d'essayer d'obtenir un livre du rabbin Paul Drac. Similitude entre l'église et la synagogue. Deux tomes. Le rabbin Paul Drac était le fils du grand rabbin de Paris, vous savez, vers la fin du 19e, début du 20e, je crois. C'était le plus grand érudit du monde parmi les juifs. Le plus grand érudit du monde concernant tous les textes de la tradition d'Israël. Et il connaissait déjà son hébreu parfaitement à l'âge de 5 ans. Alors, je peux vous dire, c'est intéressant. Il s'est évidemment converti au christianisme. Et ce livre est très, très fort, très puissant. Et il prend quelques exemples et il vous explique la différence entre la première, deuxième et troisième Kabbale. Et puis, il vous montre des textes et il vous montre que ces textes de Moïse correspondent exactement au magistère de l'Église. Similitude ou quelque chose comme ça entre l'Église et la synagogue. Mais on voit le titre en gros, enfin, il y a écrit en petit, je crois que c'est similitude, puis l'Église et la synagogue. C'est pas ? Oh, c'est très intéressant, le rabbin Paul Drac, hein, c'est formidable. Bon, tout ça pour vous dire, voyez bien qu'on ne quitte pas, j'allais dire, notre tradition à nous, que le dimanche, on s'occupe de la révélation de l'Écriture, mais maintenant, l'interprétation. Et oui, les sacrements viennent d'où ? Les sacrements viennent de ce fait que, eh bien, il y a l'Écriture, mais il faut bien que l'Écriture soit explicitée dans une tradition pratique. Les sacrements rentrent dans ce mystère du magistère, dans ce mystère de la pratique et la mise en pratique concrète des secrets de l'Écriture. Les sacrements rentrent dans cet aspect-là, n'est-ce pas ? Or, il y a... Ah bah tiens, je fais un petit exercice. Après lui, Saint Pédis, canonisé. Après Saint Pédis. I'm not impressed. Alors, Léon XIII. 1870. Celui qui a... Oui, alors ensuite, après Léon XIII. Benoît XV. Après Benoît XV. Ah non.
Non.
Pion, c'est...
C'est Pion, ça fait Pion. Oui, c'est Pion, ça fait Pion.
Pardon, mais ça, Pédis, ça n'a rien à voir avec ça. Pédis.
Non, Benoît XV n'est pas prêt. Benoît XV, c'est Benoît XV, c'est juste avant Pion. L'erreur est entre
Pédis, vous êtes d'accord que Pédis est mort parce que à la déclaration de la guerre 14-18.
Pédis, non. Oui, c'est Benoît XV. C'est Benoît XV.
Benoît XV qui prend alors
la succession. Après Pédis, alors.
Après Benoît XV. Puis Pion, alors, d'accord.
Et après, il y a Pion, après Benoît XV.
Alors là, on est d'accord. Et maintenant, Pédouze.
Pédouze.
Allez, les anciens se taisent maintenant, les jeunes uniquement. Après Pédouze. Hein? J'ai dit. Jean 23. Après Jean 23. Paul VI. Alors attendez, que tout le monde se taise. J'ai m'en coincé un. Après Jean-Paul Ier. Jean-Paul II, d'accord. C'est bien. Il n'y a pas un Eugène quelque part?
Il
n'y
a pas d'Eugène.
Il n'y a pas d'Eugène?
Non, c'est bien plus ancien. Il y a un pape Eugène, mais c'est bien plus ancien.
Il n'y a pas un
Après Pie IX.
Ah non, il y a pas normalement, pas au 19e siècle.
Bon. Bon, alors, il y a dans la première tradition de Moïse, ainsi... un système d'interprétation, une clé interprétative que je vous avais déjà signalée et que je vais vous rappeler. Et il est bon de la connaître par cœur parce qu'elle est très intéressante et puis surtout elle est axiale et elle est, j'allais dire, universelle. Elle peut s'appliquer à tous les textes de l'Écriture. C'est la fameuse interprétation de la Ménorah d'Israël. La Ménorah, c'est le fameux chandelier à 7 branches. Le chandelier à 7 branches, vous le savez, dans le livre de l'Exode, on demande à Moïse, on demande au peuple d'Israël de faire d'énormes chandeliers dans le temple avec 7 grandes luminaires. Et c'est des chandeliers en or. Et vous savez qu'on allume ça pour la fête des lumières, c'est-à-dire la fête du tabernacle, la fête des temples, qu'on appelle la fête de Soukhot. Oui. Oui, mais à un moment, vous savez que c'est... Oui, mais c'est pendant la fête de... De Soukhot aussi, on doit allumer ici. Hanouka aussi, vous avez la fête des lumières. Et bon, à un moment, et la menorah qui est dans le temple de Jérusalem est tellement énorme qu'elle illumine toute la ville de Jérusalem. Tellement c'est une menorah énorme. C'est des lumières extraordinaires qui sortent du temple de Jérusalem. Alors, cette menorah, et puis vous voyez, vous avez tous vu sans doute tous ces chandeliers à cette branche qu'on trouve sur certains hôtels, dans la communauté du Lion de Juda par exemple, ou ailleurs, enfin bon. Alors, la menorah, eh ben, ok, on dit, tu fabriqueras une menorah, tu la mettras à tel emplacement, etc. Encore aujourd'hui, dans les synagogues, là où les juifs font leurs prières, il y a toujours le rouleau et puis la menorah. Ça, ils ont gardé ça, vous voyez, ils ont gardé au fond l'écriture et puis le symbole du Messie. Menorah, symbole de l'homme divinisé, de l'homme entièrement divinisé, donc le Messie. Alors, la menorah a 7 branches. Et, par exemple, bon, rappelez-vous toujours que il y a sur la menorah, les 7 branches sont constituées de manière à ce que ce soit comme un vase communicant, c'est-à-dire quand je mets de l'huile ici, n'est-ce pas? Eh bien, il se communique dans toutes les branches. Et puis, je mets le feu ici. OK? Eh bien, les branches, on commence à allumer les branches des extrémités qui constituent le même duo. C'est toujours deux par deux. OK? Vous me voyez? Vous me situez? Bon. Le premier duo, qui est le duo extrême, représente dans l'homme les pieds. Le deuxième, quand on allume la menorah, dans la liturgie, on doit allumer ensuite le deuxième, du haut, qui représente les hanches. Le troisième duo représente les bras et les mains.
Les bras.
Les mains. Et le dernier représente la tête.
Ok, vous saviez, ça vous rappelait vaguement, on avait déjà vu une fois.
Lorsque vous allumez le point de vue, les pieds, ça représente quoi? Ça représente le point de vue. Si vous, on commence par s'arracher, il faut courir vers Dieu. C'est la foi. Abraham, Abraham, viens vers le pays que je te montrerai. Il faut courir, c'est le zèle de la foi, c'est pas? Il faut courir. Et alors, tout ce qui est dans l'homme est en puissance va être mis en mouvement, dans un mouvement qui est non pas humain mais divin. Donc le mouvement, qui est le feu divin, va mettre en puissance, va mettre toutes les puissances de l'homme pour, en mouvement par la foi, pour s'arracher à ce monde cosmique et rentrer dans la foi. Okay? Puis ensuite, les hanches. Les hanches, bon, bah, c'est beaucoup plus le point de vue de la fécondité, vous savez bien. Donc la fécondité, tout ce qui, dans l'homme, est en désir, va recevoir la vie d'en haut. La vie d'en haut va rentrer dans toutes les puissances de capacité de désir. Cette vie d'en haut, c'est la fécondité de l'homme. L'homme va être source de vie éternelle. Le Messie. Les mains représentent donc bien sûr les actes, et l'algérer, comme on dit en latin, représente le point de vue du cœur et de l'amour. L'amour, c'est les actes montrent si tu aimes. C'est par tes actes que tu montres si tu as de l'amour. Par les gestes que tu fais, que tu montres, c'est de l'amour, c'est pas les paroles n'ont aucune signification, parce qu'elles sont objets d'interprétation. Et l'interprétation est toujours un peu tordue. Mais les gestes, ça s'interprète très bien. C'est imparable, un geste. Ça veut toujours dire ce que ça veut dire. Alors, voyez bien, le cœur. Alors, les mains, ça représente les actes, c'est tout le point de vue, donc, de notre capacité d'accueil et de don. Le don est donné dans toutes nos capacités d'accueil. L'accueil et le don, c'est extraordinaire. Et du coup, dans la tête va représenter tout ce qui va mettre en acte l'intelligence de l'homme, le cœur profond de l'homme, la volonté de l'homme et la mémoire ontologique de l'homme. Voilà la menorah. C'est ça la signification de la menorah. Et on fait, voyez, on commence comme ça. On allume le premier, le septième, le deuxième, le sixième, etc. Puis on termine par la vie contemplative remplie de charité dans les mains du Père. Et à ce moment-là, on commence la prière. C'est très beau, ça, comme catéchèse, vous voyez, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avant de commencer à prier. Hein? Il faut réveiller tous ces aspects-là. Ah, on salue Catherine. Tu prends le train. C'est ça. Tu embrasseras Paris pour nous. Et aussitôt arrivé chez toi, tu allumes ta menorah. Hein? Bon, eh bien, ce système de la menorah est un moyen et une clé de lecture de pratiquement tous les passages de l'Écriture. Bon, exemple, et là, je vous le signale, parce que vous pouvez vous-même faire ce petit travail de méditation, d'une rencontre en silex, entre une clé d'interprétation donnée par la tradition de Moïse, et puis des textes qui nous sont donnés, par exemple, même dans le Nouveau Testament. Exemple, vous pouvez par exemple prendre, là où c'est presque le plus facile, vous pouvez prendre le prologue de l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, prologue. C'est l'évangile de Saint Jean tout à fait au début. Chapitre 1, verset 1 à 18, je crois. Je devrais savoir par cœur, moi. Hein? J'ai honte, je suis vidé de la communauté Saint Jean. C'est ça, waouh! Ah, 18. Si vous lisez l'évangile de Saint Jean, prologue 1, chapitre 1, verset 1 à 18, vous verrez qu'il y a sept grandes parties. Il y a sept grandes parties dans le prologue.
Et vous allez vous rendre compte que donc, la mise en mouvement, donc, c'est normal. Le mouvement divin, c'est les processions divines. Dans le commencement, dans le principe, était le Verbe. Le Verbe était Dieu, le Verbe était face à Dieu. Voilà le grand mouvement des processions éternelles. Et puis, le dernier passage, qui se termine au verset 17 et 18, eh bien, c'est ça qui fait flamber toutes les puissances. La loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse, la grâce et la vérité nous sont devenues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui, dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Vous voyez, il s'interprète à partir de cette structure de la Ménorah, et vous vous rendez compte que ce qui est central dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, c'est ce qu'il y a, et qui est ici, et qui correspond au point de vue de la tête. Et c'est là où le Messie est tout à fait lui-même. Vous pouvez faire cette petite interprétation, ce petit travail. Vous pouvez le faire sur le prologue, vous pouvez le faire sur des petits passages de l'Apocalypse. Vous pouvez le faire sur, vous voyez, sur des sept ténères, par exemple, de l'Apocalypse. Prenez les sept trompettes, par exemple. Et vous avez une nouvelle vision, quelque part, d'un texte, vous voyez. Là, vous voyez, ici, je vous donne un petit truc pour que vous essayiez de saisir, quelque part, la différence qu'il y a entre la tradition interprétative juive, la manière des juifs, mais la manière bonne des juifs d'interpréter la Bible, et puis notre manière à nous, dans la tradition apostolique, qui n'est pas tout à fait comme ça. Vous voyez, c'est nouveau pour vous, vous savez jamais. Il faut sentir cette petite différence. Il y a quelque chose de symbolique hein, dans cette tradition-là. Tandis que dans la tradition chrétienne, puisque le Christ est venu manifester ouvertement qui est le Messie, c'est lui, qui est Dieu, c'est lui, qui est le Père, c'est celui qui l'a envoyé, qui est l'Esprit Saint, c'est son fruit. Alors, donc maintenant, c'est plus besoin de passer par les symboles, et donc, il va y avoir des choses, il va y avoir des manifestations explicites, pas symboliques. Et donc des signes substantiels. Alors, vous voyez, on se rapproche des sacrements. Vous voyez, quel contour. Les signes substantiels. Remarquez bien que c'est intéressant, c'est beau. Si un jour vous trouvez une petite menorah, mettez-la et puis vous commencez votre prière du soir avec ça. C'est beau, un peu d'encens, c'est magnifique. Pour montrer que vous êtes des fils d'Abraham. Et que vous êtes enraciné dans un magistère qui a plusieurs millénaires. Hein ? Que celui de la foi. Alors, voilà donc une structure septénaire qui est assez hébraïque. Et la deuxième structure septénaire que vous connaissez très bien, c'est une structure philosophique, c'est la fameuse structure de l'homme qui a sept dimensions. Ah, alors ça c'est... Les sept dimensions de l'homme, si vous connaissez par cœur, l'homme véritable a sept dimensions. Alors là, vous allez m'aider quand même. Dans l'homme, il y a sept dimensions. C'est là. Puisque vous êtes un homme, contrairement aux apparences, hein, il y a sept dimensions en vous. Alors, bon, vous aimez. Vous êtes capable d'aimer. Hein ? C'est pas pareil, n'est-ce pas ? Vous aimez. Vous avez un cœur, vous avez une capacité d'aimer. Un cœur très profond, ok ? Vous êtes intelligent. L'homme est intelligent et capable de contempler. Il cherche la vérité et il la contemple. C'est l'intelligence. Intelligence profonde, intelligence spirituelle, intelligence du pneuma. Le cœur profond, le cœur spirituel, le cœur pneumatique, le cœur humain. L'homme a un corps. Il a toute une dimension naturelle en lui. Et il est un tout petit cosmos, et à lui tout seul, il y a une relation physique avec tout l'univers. Et tout l'univers peut, j'allais dire, se résumer en lui, se vivifier en lui, se rassembler en lui, et se ramener à partir de lui à sa finalité. Nous sommes tous en relation physique avec tout l'univers. Et c'est pour ça que nous respectons notre corps. Et notre corps a une pureté qui mérite le respect, une humanité qui mérite le respect. Il y a la physis du corps, il y a une dimension naturelle du corps. Nous sommes responsables de l'univers, roi de la création, roi de l'univers, à travers le corps. Et nous avons une âme, nous avons toute une vie intérieure, toute une intériorité. Une intériorité de vie. Voilà deux autres dimensions. La dimension donc affective, la dimension contemplative, la dimension naturelle, la dimension d'intériorité. Nous avons encore d'autres dimensions, bien sûr, heureusement. C'est que nous sommes chacun d'entre nous un génie. Dieu a créé notre univers, mais on n'est pas parfait, et l'univers non plus. Il aurait pu créer un univers parfait, mais l'univers créé par Dieu n'est pas parfait. Vous l'avez remarqué sans doute, que l'univers n'est pas parfait. Mais Dieu aurait pu créer un univers parfait, mais il n'a pas créé un univers parfait. Il y a des imbéciles qui l'ont dit, comme Leibniz par exemple, mais l'univers créé par Dieu n'est pas parfait. Bon. Pourquoi ? Parce que Dieu crée par amour. Et donc l'homme qui est dans cet univers doit compléter l'œuvre divine pour que cette complémentarité entre l'œuvre de l'homme uni à Dieu puisse rendre l'univers parfait. Vous savez que la glorification de l'univers fait que cet univers deviendra parfait. Et ce sera grâce à l'homme qui aime Dieu. C'est à cause de ça que l'univers n'est pas parfait. C'est pour que la perfection de l'univers vienne de l'amour entre Dieu et l'homme et d'une coopération. C'est la dimension génial de l'homme. L'homme est un génie, chacun d'entre nous, nous sommes un génie. Nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes. Nous sommes des amoureux de la beauté, de la splendeur. Et chacun pour ça est source de beauté, de perfectionnement, d'harmonisation, de glorification de l'univers. Il y a toute une dimension géniale en nous. À partir de l'inspiration, on fait une peinture prodigieuse. Voilà une nouvelle dimension. L'homme travaille et il transforme ce qui est autour de lui pour en faire un milieu qui est plus parfait. C'est vrai, à partir du moment où tu arrives dans un endroit où il y a beaucoup d'épines, beaucoup d'orties, beaucoup de machins, l'homme arrive, ça finit par, au bout d'un certain temps, être habitable, plus, je sais pas, il y a des belles fleurs, c'est tout à fait différent tout de même, au bout d'un certain temps. Alors, autre dimension de l'homme, ben l'homme, il est responsable, il est une partie, il est humble, il fait partie d'un corps mystique, il fait partie d'une famille. Nous sommes partie d'une famille. Nous, à la maison, c'était marrant, on était cinq sœurs et puis un frère, et puis mes parents, qui étaient deux grands-enfants. Alors, on était neuf à jouer dans la cour de récré. C'est super. Alors, je me rappelle que qu'est-ce qu'on se bagarrait. Oh là là, c'est extraordinaire ces bagarres. Dans une famille, c'est génial pour ça. On se bagarre. Mais chacun d'entre vous, vous savez ce que c'est qu'une famille. C'est incroyable le lien qu'il y a dans une famille. Il y a un lien de chair et de sang, et il y a un lien. Si en plus on vit la même chose du point de vue de la grâce, de la foi, de l'espérance, de la charité, de la mystique, c'est incroyable comme unité. C'est affolant. Alors on sent vraiment un corps. Et pour ça, c'est dans la lutte. Hein, parce que c'est génial, c'est une famille. C'est génial. Et chacun a sa place. Chacun a sa place. Exactement. Et on est une partie d'un corps tout entier, un petit corps familial. Apprendre à être à sa place et être ajusté à un corps mystique. Ça s'apprend de manière élémentaire dans une famille. N'est-ce pas ? Et puis, nous ici, l'Église, ce qu'elle essaie de faire partout, elle essaie de faire des familles, des petites oasis de famille. Marie, ce qu'elle essaie de faire, que ce soit familial. Il y a un esprit de famille qui est d'huile. vous mettez de l'huile sur les plaies. Donc, si on se griffe pas un peu, alors, mes sœurs étaient terribles. Moi, je risquais pas de leur faire mal. Mon frère, non plus, on se bouffait les ongles. Alors, ça leur faisait pas mal quand on les griffait. Mais mes sœurs, elles, hein. Pour ça, j'étais trop. Mon frère et moi, j'en ai été traumatisés. On n'a jamais cessé de se passer de l'huile, finalement. L'onction, c'est extraordinaire, cette histoire de corps mystique. On fait partie d'un corps social. Il y a une dimension, au fond, de pardon, de miséricorde, d'huile, d'onction. On fait partie d'un corps mystique, du point de vue de l'ajustement, de la miséricorde, du pardon, de la vie familiale, de l'esprit de famille. Je ne sais pas comment... On dit, le point de vue social, ça, il y a une dimension sociale, mais enfin... Ça va pas, quoi. On fait partie de l'humanité, quoi. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est toute l'humanité, c'est pas qui est irriguée par ce que vous avez fait. À chaque fois que vous faites un acte de sainteté, c'est toute votre famille qui est surélevée dans la sainteté. C'est vrai, c'est comme ça. Donc c'est un point de vue social, vous voyez, le point de vue de l'une. Vous faites partie d'un tout humain, d'un corps mystique humain. Alors je préfère la dimension d'intégration dans un corpus mystique, dans un corps mystique. La famille, c'est un corps mystique. Voilà. Et la dernière dimension, vous le savez, eh bien, c'est que nous sommes, l'homme est un animal religieux. Vous avez tous appris ça en classe de terminale, l'homme est un animal religieux. Eh bien, il dépend de son créateur. Il y a toute une dimension d'absolu, une dimension de transcendance, une dimension de dépassement, d'éternité en lui. Le point de vue de la liberté et de l'éternité. Et du point de vue religieux. C'est naturel, ça. C'est pas du tout surnaturel, ça. Il est capable d'adorer. Voilà les sept dimensions de l'homme. Donc vous avez la menorah juive, la menorah grecque, hein. Vous savez que l'écriture, la Bible, elle est écrite en hébreu et en grec. Donc ces deux menorahs sont extraordinaires. Bien, il y a une troisième menorah qui est à la fois juive et grecque, c'est la menorah des sept sacrements. C'est très simple. Parce que vous avez tout ça, ok, n'est-ce pas ? Vous essayez d'aimer, vous essayez de contempler, vous essayez d'être responsable de l'univers, vous essayez d'être dans le plus uni à votre corps mystique, d'être à votre place, vous essayez d'avoir une vie intérieure la plus, d'être le plus génial possible, d'adorer le plus possible, d'être le plus uni à Dieu possible. Et du coup, ça y est, si vous faites ça, si ces sept dimensions en vous sont pleinement épanouies et en même temps harmonisées de manière telle qu'il vous est possible de toucher en vous le point de vue de l'être, alors à ce moment-là, vous êtes devenu une personne humaine. Si votre vie ne consiste qu'à vous investir dans le point de vue de la famille et tout le reste ne compte pas, vous n'êtes pas une personne humaine. Si vous vous investissez uniquement dans le point de vue de l'art et que tout le reste n'existe pas, c'est l'art prend une place prodigieuse et puis de petites branches ici, lilliputiennes pour les autres. Vous n'êtes pas une personne humaine. Une personne humaine, on devient une personne humaine. Il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans, et qui n'ont toujours pas une personne humaine. On le devient, une personne humaine. Ça s'éduque, une personne humaine. Il faut apprendre à aimer de manière spirituelle, il faut apprendre à contempler de manière naturelle, il faut apprendre à adorer, il faut apprendre quel est le pli de son génie intérieur artistique, là où on est le plus génial. Il faut apprendre à avoir une vie intérieure jusqu'à la racine de cette lumière qui active le diaphane intérieur, etc., etc. Il faut aller épanouir toutes ces dimensions. Et lorsque toutes ces dimensions sont épanouies et harmonisées ensemble en un, à ce moment-là, vous trouvez en vous le point de vue de l'être. Vous êtes donc une personne. Vous êtes unifié dans vos sept dimensions. Là, ça y est, vous êtes une personne humaine. Et vous vous rendez compte que cette personne humaine n'est pas... Il y a des problèmes, justement. Bon, vous essayez, vous êtes attentif à chacune de ces sept dimensions, mais il y a des blessures affectives. Alors, il y a toute une portion cassée, n'est-ce pas ? Il y a plein de choses qui sont brisées. J'y comprends rien. Compris, c'est toujours moi qui tout pris les coups. Et c'est ma sœur qui a hérité de tout l'héritage. Et ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis gosse, c'est comme ça.
Voilà. Bon, etc. Alors, vous voyez bien qu'il y a des problèmes. Il y a l'orgueil, la concupiscence, la vanité, etc. Il y a des... On est attentif à toutes ces dimensions, mais ça ne marche pas. Alors, c'est pour ça que le Messie vient s'associer à nous pour compléter. Pour guérir, pour sauver, pour laver, pour élever. Et le moyen que prend le Messie pour venir nous sauver, nous laver, nous rédemptorer dans chacune de ces dimensions, à partir de ces dimensions à lui, c'est les sept sacrements. De sorte qu'il faut que je vive des sept sacrements. Parce que c'est toute ma personne qui doit être illuminée, lavée, sauvée, rédemptorée, guérie, surélevée, sanctifiée et glorifiée par le Christ. Aucun des sacrements n'est inutile, ils sont tous indispensables. C'est nécessaire. Il y a sept sacrements, j'espère quand même que vous les connaissez. J'espère que vous les connaissez. Et vous pouvez faire un petit travail personnel, c'est mieux que ça les mots croisés. Ça. Vous ferez, vous essayez de voir où est-ce qu'il faut placer les correspondances, n'est-ce pas ? Entre les sacrements. Donc je le fais exprès dans le désordre, n'est-ce pas ? Donc, le baptême, c'est sûrement le sacrement fondamental qui vous incorpore dans la tête. Votre corps rentre et est transplanté par le baptême dans le corps mort et ressuscité de la tête qui est le Christ. Ah, ça c'est sûr, c'est le sacrement fondamental. Pour ceux qui ont suivi, je pense, toutes nos retraites, etc., sur le, vous vous rappelez que le sacrement qui correspond au fait que vous recevez tout de Dieu, l'accueil, des sacrements au fond de l'amour, qui fait que vous accueillez tout l'amour de Dieu et le don de Dieu, et puis du coup vous donnez vous-même tout ce que vous êtes. Bon, quand vous donnez vous-même tout ce que vous êtes, c'est la confession. Mystère de la confession. Vous répondez au... Et quand lorsque vous accueillez, vous recevez le don de Dieu, l'Eucharistie. Le don et l'accueil. Voilà, les deux sacrements de l'amour, qui sont les sacrements ultimes. Vous voyez bien, par l'accueil, vous recevez le don ultime. Par le mystère de la confession, vous complétez... Vous mettez une complémentarité par rapport à ce don ultime. Le sacrement fondamental, c'est le baptême. Le sacrement ultime, c'est l'Eucharistie. Mais la complémentarité par rapport à ce sacrement ultime, c'est le mystère de la confession. Je crois que là, pour ça, c'est facile. Hein? Oui. Mais attention, je vous assure que je suis en train de chercher avec vous. Je ne l'ai pas lu quelque part, là. Le coup. Et si on cherche, ben j'aimerais bien que vous. Alors, à votre avis, hein, je ne sais pas. Voyez. Alors. Qu'est-ce qui reste encore, vous direz, du point de vue du corps, hein, sacrement du corps correspondant à tous vos désirs. Mariage. La sponsalité. Il y a deux sacrements qui sont par rapport à la fécondité, vous voyez le point de vue des hanches. Le mariage vous donne une fécondité surnaturelle, une fécondité de gloire, une fécondité dans l'ordre d'expiration, dans l'ordre des processions dans le temps, et une fécondité aussi temporelle, une fécondité dans l'ordre de l'enfant, une fécondité spirituelle, une fécondité morale, une fécondité aussi dans l'ordre de la santé. Vous avez tous les cinq fruits de ce sacrement qui est une fécondité, qui est l'ordre de la fécondité. Et le sacrement qui structure cette vocation, c'est le sacrement de mariage. Il y a un deuxième sacrement qui structure la fécondité et qui donne la vie, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce donne la vie éternelle. Le sacerdoce, source de vie éternelle. Il faut vivre du sacerdoce. Donc, le sacrement de l'ordre. Bon, je crois que là, c'est assez clair. Alors, il nous reste maintenant, sauf erreur, deux sacrements. Donc, le sacrement de la puissance et de la force, et le sacrement, au fond, des malades. Bon. Voilà. Bon, eh ben, très bien. Sacrement de confirmation. Qui vous donne une nouvelle puissance, puis sacrement des malades. Les deux, hein, sont faits avec de l'huile, vous savez ça, hein, qui redonne. Alors, le sacrement des malades, c'est que votre âme liée à votre corps, va être comme placée, si je puis dire, dans sa pointe spirituelle incarnée, le plus proche du Saint-Esprit possible, donc de l'union du Père et du Fils. Et du coup, cette espèce de paresse spirituelle qui est la vôtre sera guérie. Et du coup, la maladie disparaît. Toutes les maladies viennent d'une paresse contemplative. Les deux derniers sacrements, les trois derniers sacrements de malade que j'ai opérés, dans les 9 mois, la guérison a été totale. Mais les sacrements opèrent de manière efficace, vous savez. Bon, mais c'est pas ça, c'est pas le corps. C'est le but, c'est pas la guérison du corps. Le but, hein, c'est de replacer dans une santé à sa bonne place, donc dans le plus proche possible de l'étreinte du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, la partie de l'Esprit incarné et qui est malade de l'homme. En général, on le donne pour ça à la fin de la vie, comme ça, il ne reste plus qu'un tout petit trajet à faire. Et la confirmation, c'est qu'il reste encore beaucoup d'opérations de puissance, et toutes les puissances doivent aller vers leur acte, hein, donc ça commande la force, c'est pour que la foi se commune. Bon, vous voyez bien que ces 7 sacrements sont quand même drôlement intéressants. Hein. Bon, alors vous voyez tout de suite, quand je les fais, que je les fais par rapport à la menorah d'Israël, ici, cet ordre, hein, sacramentel, et vous voyez qu'il ne correspond pas tout à fait à la menorah grecque. Alors c'est pour ça que c'est votre petit travail que vous pouvez faire d'ici la prochaine fois. C'est de recommencer quelque part, de réordonner celui-là de manière à ce qu'il soit cohérent avec celui des sacrements et celui de la menorah d'Israël. Parce que je reconnais que j'ai fait un petit peu à la va-vite, hein, de manière intuitive. Bon, mais j'espère que vous comprenez que ici les sacrements sont un métaxu. C'est du grec, le métaxu. Ça s'écrit comme ça. Métaxu. Métaxu. Ça veut dire quelque chose d'intermédiaire. C'est un moyen. C'est un instrument. C'est intermédiaire entre le Christ et l'homme pour que l'homme puisse devenir Christ et Fils de Dieu. Et avec le Fils de Dieu, glorificateur de l'univers. Ça va? Donc les sacrements ne sont pas un but en soi. C'est un moyen. Et donc, ce que j'aurais aimé, c'était très ambitieux, je le sais bien, tellement aimé faire cette année, c'est de regarder pour chacun des sacrements, lorsque le Christ, à travers le sacrement, vient faire l'unité vivante, réelle, mystique, sanctifiante, divine, dans toutes mes dimensions intérieures, il y a l'unité, si je puis dire, des trois, ça donne un fruit. Et quels sont ces fruits? Quels sont les 7 fruits des sacrements? Et comment est-ce qu'on reçoit ce fruit? Il y a beaucoup de gens qui reçoivent les sacrements, ils ont reçu les sacrements, mais ils ne sont pas capables de... Alors, ils usent des sacrements, hein? Je vais à la messe, par exemple, ils usent des sacrements, je vais me confesser, mais le fruit... Bah, j'ai été me confesser, puis c'est tout, c'est marre. Mais le fruit, c'est-à-dire la chose la plus importante des sacrements, ils ne savent pas. C'est terrible. Donc le plus important des sacrements, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas, nous ne savons plus. Nous avons perdu la tradition, nous avons perdu. C'est ça. Il faut la retrouver, c'est ça que j'aimerais. Bon, on a déjà essayé, de toute façon, que ce soit les fruits du sacrement. C'est pas tellement la même chose. Et on va s'apercevoir qu'il y a une complémentarité extraordinaire entre les les différents fruits des sacrements. Et vous savez que chaque sacrement a des fruits différents. Et non seulement, et plusieurs fruits. On avait déjà vu les cinq fruits des sacrements de mariage. Les cinq fruits du sacrement du mystère de la confession, etc. Et une fois qu'on aura fait ça, il est bien évident qu'à ce moment-là, on a une clé de lecture pour l'Apocalypse, pour voir que Marie, c'est le fruit parfaitement unifié des sept fruits des sacrements. Ça, c'est sûr. Voilà. Là, on va souffler un peu, et puis on va reprendre.